La pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Calade. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Cette émission est destinée aux mamans afin de parler sans tabou sur des sujets en lien avec la maternité qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de donner donc la parole aux mamans et de leur permettre de se libérer de leur vécu. Chaque mois, nous recevrons le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme pour échanger avec elle autour de son expérience. Je suis Elodie, sous le nom de Doucela, et je suis accompagnée de Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Laissons Naissance. Bonjour Lucille, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour, je vais très bien, très bien. Franchement, je commence à prendre le rythme de ces émissions mensuelles. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver tous les mois. Et je crois qu'aujourd'hui, on va partir sur un sujet vraiment très, très inspirant, un témoignage vraiment très inspirant. Donc, j'ai hâte qu'on puisse commencer.
Oui, tout à fait. Ça va être chouette. Alors, aujourd'hui, nous recevons Marilyn. Bonjour, Marilyn.
Bonjour, Lucille, et bonjour, Elodie. Merci de m'accueillir.
Bah avec plaisir. Donc du coup, Marilyn souhaite témoigner sur son cheminement dans le deuil périnatal, à la découverte des problèmes de santé au cours de la grossesse concernant ton bébé. Donc Marilyn a dû avoir recours à une IMG dont elle va nous parler. Je te laisse la parole du coup.
Donc je me présente, Marilyn, j'ai 37 ans, je suis mariée, maman de deux garçons, nés en 2014 et 2017. Et en 2023, je suis tombée enceinte de mon troisième petit garçon. C'était une grossesse profondément désirée pour moi. Papa était un peu moins enthousiaste parce que notre équilibre familial à quatre était parfait.
Et comment a vécu le papa l'annonce de cette grossesse ?
Eh ben, à partir du moment où on a pris la décision d'agrandir la famille, je suis tombée enceinte immédiatement. Donc ça a tout de suite été un choc parce que ça a été aussitôt qu'il avait accepté, la grossesse était là. Donc du coup, sur l'instant, ça a été un choc. Il lui a fallu quelques temps pour assimiler l'idée que réellement on allait être cinq.
Ok.
Ça implique aussi la nécessité de se préparer aussi psychologiquement, de comprendre que dans la grossesse, en fait, autant le père que la mère a besoin de cette préparation psychologique aussi. C'est-à-dire que la raison peut être là, mais en fait, tout le reste de la transformation psychologique peut être plus délicate, en fait, parce que chacun agit à son rythme.
Oui, puis moi, c'était vraiment un désir profond, viscéral depuis toujours, d'avoir trois enfants et notamment trois garçons. Et mon mari, la grossesse, c'est quelque chose qui vit relativement mal. Il a toujours peur qu'il arrive quelque chose pour le bébé ou pour moi. Donc, c'est 9 mois pendant lesquels il est dans l'inconfort absolu.
Oui, ça réveille des peurs sous-jacentes pour lui, en fait. Des angoisses morbides, presque.
Oui. Et puis, qui, pour le coup, se sont révélés par la suite.
Je te laisse continuer, si tu veux bien.
Donc, un début de grossesse tout à fait normal, avec, du coup, au fur et à mesure des semaines, les premières échographies de datation, finalement, tout le monde se fait à cette chouette idée d'être bientôt 5. Les enfants sont super contents, des premiers examens tout à fait normaux. On passe le premier trimestre avec... la clarté nucale tout à fait normale, la prise de sang qui elle aussi est dans les normes. Donc on arrive au rendez-vous du quatrième mois et ce rendez-vous-là c'est une visite classique, donc j'y vais toute seule et dans l'idée de connaître enfin le sexe de bébé. Et j'avais donc demandé à la sage-femme de noter sur un petit papier, moi je fermais les yeux et on découvrirait le soir ensemble en famille le sexe de notre bébé. Et puis donc elle me fait fermer les yeux et très rapidement, ça a duré vraiment quelques secondes, elle me les fait rouvrir et je vois dans ses yeux qu'il y a quelque chose de très grave parce qu'elle a les yeux larmoyants et elle a du mal à trouver ses mots et elle me dit écoutez, j'ai pas vu le sexe de votre bébé mais quelque chose m'a interpellée, je ne peux pas passer à côté, Et là, elle me montre à l'échographie qu'autour de son poumon gauche, il a une poche d'eau qui ne doit pas être là. Et à ce moment-là, donc, elle me dit que ça va au-delà de ses compétences et qu'elle ne sait pas quelle est la cause de ça. Elle sait juste que ce n'est pas normal et qu'il va falloir du coup, qu'on aille voir un spécialiste. Donc à ce moment-là, j'entends, mais je n'entends pas ce qu'elle me dit. Et je n'ose surtout pas demander si c'est grave, pas grave. En fait, je ne veux pas avoir de réponse. Je comprends, mais sans comprendre. C'est assez étrange comme sensation.
Oui, c'est une dissociation, en fait.
Oui.
C'est une dissociation émotionnelle. C'est normal quand le choc est beaucoup trop violent, quand on ne s'y attend pas. En fait, le cerveau réfléchit comme ça, en fait, parce que c'est une situation traumatique. Donc, voilà, ça, c'est juste pour éclairer les personnes qui nous écoutent. Lorsqu'on subit ou qu'on vit un stress vraiment traumatisant, en fait, le cerveau peut se mettre en dissociation, en fait. C'est ce qu'on dit, dissociation émotionnelle.
Et là, elle me dit, est-ce que vous voulez appeler votre mari ? Et en fait, j'étais terrifiée parce que j'allais l'appeler, mais j'allais lui dire toutes ses craintes, en fin de compte. Et je n'étais pas prête à assumer parce que c'était entre guillemets, de ma faute qu'on en soit là. Puisque ce bébé, c'était moi qui le voulais. Donc, elle prend en charge, enfin, elle part, elle va voir sa secrétaire, elle me laisse un peu me rhabiller et reprendre un peu mes idées. Et elle contacte le service du diagnostic anténatal le plus proche de chez nous. Alors, je ne sais pas si on peut dire.
Oui, tu
l'hôpital.
Peux.
On a été suivi à HFME. Et donc, entre-temps, j'appelle mon mari qui, tout de suite, quand il voit mon appel, déjà, il trouvait que le rendez-vous était un peu long. Et du coup, en voyant mon appel, il se doute que c'est pas normal. Au téléphone, je sais même pas si j'arrive à aligner trois mots. En tout cas, il comprend, il sait où je suis. Donc, je lui dis de venir. Il me rejoint et on est envoyé dans les 2 heures qui suivent. On est attendu au diagnostic anténatal, donc de HFME. On arrive là-bas, donc dans un service complètement inconnu, et puis on est complètement paumé, perdu. On se dit de toute façon, il faut qu'on ait des réponses tout de suite, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut qu'on sache. On peut pas rester en fait dans cette attente, donc il faut qu'on sache si on poursuit la grossesse ou si on l'arrête, mais dans tous les cas, il faut qu'on sache. On est reçu par un merveilleux médecin qui nous prend en charge, qui reprend tout depuis le début, nos antécédents familiaux. Moi, à savoir que j'ai des antécédents familiaux très lourds avec beaucoup de grossesses qui se sont mal terminées, donc des bébés qui sont nés de mort spontanée in utero ou dans la première année de vie. Moi, j'ai une sœur qui était handicapée, trisomie 21, avec de lourdes malformations cardiaques et pulmonaires, qui est décédée à 3 ans. Donc, on a déjà des antécédents familiaux assez importants, et il prend tout ça en considération, et puis il prend surtout le fait qu'on a besoin d'avoir des réponses, et il s'engage tout de suite à nous dire tout ce que je peux vous apporter comme réponse en diagnostic anténatal, je le ferai. Et donc il nous parle tout de suite que ça peut être 3 causes, une cause virale, donc relativement bénigne, l'immaturité du système lymphatique, donc ça c'est... Ça arrive régulièrement et donc ça donne un épanchement pleural comme Hugo avait. Mais par contre, avec la croissance de la grossesse, finalement, ça rentre dans l'ordre tout seul. Et il nous avait dit, dans ces cas-là, ça fait des bébés en super bonne santé et votre fils pourra devenir président de la République s'il le souhaite. Et il nous dit la troisième cause, c'est la cause génétique. Et dans ces cas-là, on avisera en temps et en heure. On ne va pas penser à ça tout de suite. Mais voilà. Donc, pour avoir toutes ces réponses, il faut faire de la myosynthèse. Donc nous, on décide de le faire immédiatement, puisqu'on ne veut pas rester dans cette attente insoutenable. Et on fait la myosynthèse. 48 heures après, on a les premiers résultats génétiques, donc les trisomies... 13, 18, 21, c'est vrai que comme j'avais des antécédents familiaux, c'était quand même notre grosse crainte. Là, les résultats sont tout à fait normaux, donc vraiment un énorme soulagement. Et puis, après, il faut attendre 15 jours pour avoir la suite des résultats génétiques.
Entre-temps, comment ça se passe pendant ces 15 jours ?
Alors, on a le médecin qui, par contre, doit suivre l'épanchement pleural très régulièrement de très près. Donc, il nous donne des rendez-vous toutes les semaines. Toutes les semaines, on doit aller voir si le liquide ne se répand pas dans l'autre poumon, s'il ne vient pas comprimer le cœur au risque de faire un œdème. Et dans ces cas-là, il va falloir faire une intervention chirurgicale. Donc, il a besoin de le surveiller de très près.
Cette intervention, elle se fait in utero ?
Oui. Comme la myosynthèse, en fait, ils insèrent une aiguille par la paroi abdominale et ils vont venir percer la paroi abdominale du bébé et prélever le liquide qui, du coup, fait pression.
Oui. Souvent, ils font une ponction, en fait.
Oui, ils font une ponction. Souvent, ça a tendance à se re-remplir spontanément. Donc, en fait, c'est une intervention qui est assez bénigne, mais qui reste une intervention où on perce la paroi abdominale, donc la poche des os, au risque de provoquer une fausse couche. Donc, moins on le fait, et mieux c'est. Donc, ils essaient de surveiller, justement, et de le faire que quand on arrive dans un cas critique, et de ponctionner vraiment si c'est nécessaire. Et ils veulent surtout gagner du temps, parce que plus le bébé grossit, moins il a de place, donc moins il a de possibilité de faire de mouvements dans le ventre. Et le risque de poser ces drains-là sur le côté, c'est qu'en faisant des pirouettes, il arrache ses drains. Et s'il arrache ses drains, eh ben, c'est une opération qu'il faut recommencer.
Alors, mais du coup, comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là, lorsque du coup il y a tous ces éléments, en fait, hein, les prises de rendez-vous et compagnie, dans quel état émotionnel vous vous trouvez ?
Bah, on sort de l'hôpital le premier jour dévasté, parce que finalement, on n'a pas de réponse. Et c'est ce qu'on attendait quand on est arrivé. On sait qu'on va devoir attendre. Après, lui, il a vraiment été extrêmement rassurant. Et, je sais pas, il a été très factuel dans le déroulement. Et puis, de toute façon, on n'avait pas le choix que d'attendre. Donc, par contre, on est rentré à la maison. Et nos garçons avaient 6 ans et 8 ans à ce moment-là, nos grands. Tout de suite, on a voulu leur dire. On leur a dit avec des mots simples, mais on n'a rien voulu cacher. De toute façon, notre état émotionnel ne trompait pas. Donc, on leur a dit simplement, et nous, on a attendu patiemment les 48 heures.
Qu'est-ce que vous leur avez dit
exactement ? On leur a dit que j'étais allée faire un examen, que le docteur avait vu que leur petit frère avait un problème de santé, et que du coup, pour le moment, on ne savait pas quel était le problème et qu'il fallait faire des recherches. Donc, le docteur nous prenait en charge, lui et maman, et que du coup, il fallait faire confiance au médecin, qu'il allait chercher la cause. Et c'est pour ça que j'allais devoir aller à l'hôpital très régulièrement. Mais que pour le moment, de toute façon, on n'avait pas de réponse. Donc, il fallait essayer d'être patient et pas trop inquiet pour la suite, en fait.
Et est-ce qu'on vous a proposé à ce moment-là un accompagnement psychologique ou
Pas du tout.
Souvent ce qui se passe d'ailleurs.
Non. Le médecin a fait psychologue, secrétaire, conciliateur. Enfin bref, il a été tout pendant tout notre parcours qui a duré finalement 10 semaines. Donc on a eu les premiers résultats à 48 heures, ça allait. Et comme c'était la pire crainte, disons qu'au bout de 48 heures, notre état émotionnel s'est un petit peu apaisé parce qu'on s'était dit, bon, on a éliminé la pire cause. Donc du coup, on a attendu patiemment les 15 jours qui ont suivi. Là, les résultats génétiques sont revenus normaux. À ce moment-là, notre médecin était en séminaire ou, je ne sais pas, il était en congrès, absent en tout cas. Et du coup, on avait été vu par son confrère qui, lui, nous dit, bah, écoutez, là, à l'échographie, tout est OK. Par contre, du coup, on va rechercher des maladies métaboliques. Donc là, on était un peu surpris parce qu'on s'était dit, mais en fait, on avait trois cas de figure, la cause génétique, la virale et l'immaturité du système lymphatique. Génétique, c'est OK. Viral, c'est OK. Donc, du coup, on est sur l'immaturité du système lymphatique. Et il nous dit, c'est quand même un épanchement pleural qui est apparu très tôt. Donc, ça suscite quand même d'autres questionnements. Donc, on va aller plus loin et on va rechercher des maladies métaboliques. Donc là, recoup de massue derrière les oreilles. Et puis, il a fallu attendre 6 semaines les résultats des maladies métaboliques.
Ça fait beaucoup d'informations en même temps là, que vous recevez à ce moment-là, en fait.
Oui.
Comment vous arrivez à digérer les choses, à assimiler les choses ?
Ben, on fait comme on peut. Il n'y a pas de recette miracle, je crois.
Je propose
Mais du coup, c'est juste peut-être dans le couple. Comment est-ce que vous êtes soutenu, entendu, voilà, qu'est-ce qui a pu vous traverser? Parce qu'en plus, sans soutien psychologique, j'imagine que ça a quand même dû être une sacrée épreuve. Parce que le médecin est là, effectivement, dans un soutien émotionnel, mais c'est vrai que vous êtes peut-être senti un petit peu seul et je pense qu'il y a peut-être d'autres femmes qui sont en train de vivre ça et qui pourraient se dire, bon, bah alors, quel est peut-être un chemin à prendre dans cette histoire-là?
Je propose une petite pause musicale et puis on revient après pour que Marine réponde à ta question, Lucille. Nous allons écouter
Merci.
Ben Harper, Amen, Omen.
What started as a whisper slowly turned into a scream, searching for an answer where the question is unseen. I don't know where you came from, and I don't know where you've gone. Old friends become old strangers between darkness and the dawn. Amen, oh man, will I see your face again? Amen, oh man, can I find a place within to live my life without you? I still hear you saying.
Vous écoutez la pause maternelle sur Calade, votre rendez-vous mensuel, tous les premiers lundis de chaque mois. Donc Lucille, avant la pause, avait posé une question à Marilyn. Lucille, je te laisse reposer ta question, si ça ne te dérange pas, pour nous remettre un peu dans le
Oui,
contexte.
bien sûr. Ma question, c'était sur l'état en fait dans lequel vous étiez. Comment est-ce que vous arrivez à digérer, si c'est possible de digérer, ce nombre important d'informations? Quel impact ça a pu avoir dans votre couple sur ce moment-là, en fait?
C'est un tourbillon émotionnel qui est assez difficile à décrire parce que, en effet, ça fait énormément d'informations, c'est beaucoup de termes techniques, c'est beaucoup de, enfin, c'est beaucoup de choses mélangées. Sur notre couple, ça nous a beaucoup renforcés. En fait, finalement, on n'était que tous les deux dans le même bateau. Alors, tous les quatre avec nos enfants, mais on ne pouvait pas partager toutes nos angoisses avec eux. L'entourage, il n'est pas en mesure de pouvoir. Et puis, on a aussi ce souci de préserver l'entourage, de ne pas de dire, mais de ne pas trop dire non plus pour ne pas trop inquiéter, par exemple, nos parents ou nos frères et sœurs, parce que finalement, on ne sait pas trop où on va. Donc, chaque semaine, on leur dit ce qui se passe après chaque rendez-vous. Mais finalement, on n'est que l'un avec l'autre à pouvoir. Donc, en fait, on communique beaucoup plus que à notre. Enfin, habituellement, on communique, mais disons que ça a décuplé, en fait, cette communication où on savait que finalement, on n'était que. Ben, on pouvait compter que l'un sur l'autre pour se comprendre.
Et est-ce que tu penses que cette communication, justement, vous a aidé, vous a renforcé, à renforcer votre couple ou pas du tout? Est-ce que vous, enfin, à ton avis, quel a été le rôle de cette communication qui a été mise en place?
En fait, au départ, moi, j'ai, enfin, pendant longtemps, hein, j'ai beaucoup culpabilisé justement de mettre Julien dans cette situation. Donc, alors, après, lui, il ne me l'a jamais rien reproché, il ne m'en a jamais voulu, il ne m'a jamais tenu responsable de rien. C'était vraiment une culpabilité que je me suis moi-même attribuée.
Je crois que cette culpabilité vient naturellement à partir du moment où il se passe un truc avec la grossesse. Enfin, naturellement, oui. Il y a une culpabilité qui se crée, on se sent responsable alors que.
Mais d'autant plus que cette grossesse, oui. C'était moi qui l'ai insisté. Quoi.
Oui, okay, c'est dans le corps de la femme que ça se passe aussi, et c'est vrai que c'est perturbant parce qu'on se dit, mais du coup, c'est moi qui suis censée porter la vie et faire en sorte que tout se passe bien. Et en plus, si je l'ai désiré, bah, c'est vrai que du coup. On peut verser vers cette culpabilité, mais c'est vrai que il y a quand même des choses qu'on peut pas contrôler aussi, et la vie en elle-même, et savoir comment ça se passe, le processus. Donc c'est vrai que voilà, j'entends cette forme de culpabilité, mais c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler en fait.
Oui, non, bien sûr. Donc on a fait comme on a pu, voilà, vraiment en se soudant, l'un à l'autre. Et puis après, on a avancé, du coup, 8 semaines après, résultat des maladies métaboliques qui étaient tout à fait normaux. Fou, encore une épine du pied enlevée. Entre-temps, on a eu un risque opératoire imminent, parce que justement, il montrait des signes d'œdème. À ce moment-là, moi, j'ai pris contact avec une énergéticienne. Et le rendez-vous suivant, l'œdème avait disparu. Alors ça, c'est une croyance, est-ce que c'est la conséquence ou pas de la séance énergétique, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, on a failli passer sur le billard et puis finalement, ça n'a pas été le cas.
Je pense que là-dedans, le plus important, c'est que toi, tu y aies cru.
Mais j'ai eu le sentiment de faire tout ce qui était en mon pouvoir et de lui donner toutes les chances possibles, en tout cas pour l'aider, quoi.
Oui, après, peu importe si scientifiquement parlant, médicament parlant, c'est ça ou pas, on ne saura jamais.
Non, on saura jamais.
Mais voilà, si toi, ça t'a fait du bien et que ça t'a aidé, c'est plus important.
Et après, on arrive vers la recherche ultime. Donc, on est 8 semaines après le début de tout ça, donc 2 mois après. Et là, le médecin nous parle de la recherche de génome. Et donc, il y a une recherche génétique toujours qui va chercher à l'origine en fait de la création. Et donc, on analyse dans la première recherche tous les chromosomes, et là, en fait, on analyse individuellement chaque chromosome. Donc, on va plus loin dans la recherche. Et il nous dit que lui, en ayant travaillé au Canada, c'était une recherche systématique dans le cadre d'un hydrothorax. Et donc là, il s'est battu pour pouvoir obtenir cette recherche parce que la médecine, comme notre bébé, elle n'avait, mis à part l'épanchement pleural, aucun autre signe alarmant. Sa croissance était parfaite, on avait vu un cardiologue pédiatrique, enfin, tout était normal. Du coup, rien ne laissait présager qu'il y avait autre chose. Mais comme lui s'était engagé à nous apporter toutes les réponses possibles, il a voulu nous permettre cette dernière recherche. Et Dieu merci, parce que c'est cette dernière recherche qui, 2 semaines après l'analyse, a révélé que finalement notre fils était atteint d'une maladie génétique rare. Il était porteur d'un gène qui s'appelle LZTR1, et c'est un gène qui est responsable du syndrome de Noonan. Alors le syndrome de Noonan, c'est une maladie génétique qui va avoir des effets sur un retard de croissance, de développement psychomoteur, un risque de cancer pédiatrique accru, des risques de maladies métaboliques, type diabète, ou des choses comme ça, avec donc des grosses conséquences pour sa vie future. Et puisque j'ai grandi dans une famille où les maladies génétiques ont pris une place importante, avec ma sœur qui était trisomique et qui a fait vivre 3 ans d'enfer à mes parents dans les hôpitaux. Alors, pas ma sœur, la maladie a fait vivre 3 ans d'enfer. Pour au final qu'elle fasse un rejet de greffe cardiaque et qu'elle décède. C'est vrai que pour nous, c'était quelque chose qui était inenvisageable de revivre la même chose. Donc, après l'analyse, donc quand le généticien nous a remis les résultats, ça a été fait de manière extrêmement maladroite, parce que lui, il est scientifique et la relation humaine, c'est peut-être pas dans ses compétences premières.
Ils sont pas forcément très, très bien formés pour.
Ouais. Et donc, il nous a remis. Enfin, on est arrivé, en fait, il est venu nous chercher en salle d'attente. À ce moment-là, en plus, les échographies étaient hyper positives. Donc, on était en train d'envisager un changement d'hôpital et tout était OK. Et au final, on s'est retrouvé avec un diagnostic qui engageait finalement la vie de notre bébé. Et on a été reçus par une femme debout dans le cabinet avec une étiquette psychologue. Et en fait, ils n'ont pas eu besoin de poser des mots parce que quand on l'a vu, on a compris tout de suite que l'annonce allait être grave. Et donc, ça a été très, très maladroit, très mal engagé. Et finalement, on est retourné vers notre médecin en qui on avait une confiance énorme. Et c'est lui qui nous a permis de prendre un peu de hauteur et qui nous a posé une question très simple en nous disant aujourd'hui, quelle est l'éventualité la plus concevable pour vous ? Est-ce que c'est de mettre un terme à la grossesse avec toutes les conséquences que ça implique ? Ou alors, est-ce que c'est de poursuivre la grossesse ? Et là, pour le coup, les conséquences que ça implique, elles sont aussi pour la vie de votre bébé et de vos autres enfants, votre vie de famille de manière générale. Et là, j'ai été la première à verbaliser et à dire au médecin avec énormément de difficultés. Parce qu'à ce moment-là, je sentais mon bébé dans mon ventre qui bougeait. On était à 7 mois de grossesse, début du 7e mois de grossesse. Et je le sentais vivant. Et il fallait que je dise au médecin que je demandais la mort, quoi. Donc ça a été un moment extrêmement douloureux. Julien, après, le médecin avait besoin d'avoir les deux paroles verbalisées. Donc Julien a lui aussi demandé l'interruption médicale de grossesse. Et après, il faut savoir que, en tout cas dans notre cas de figure à nous, ça ne revient pas aux parents, cette décision, parce qu'on peut vivre avec le syndrome de Noonan. Dans quelles conditions, ça c'est une autre question, mais en tout cas on peut vivre. Donc du coup, c'est la médecine qui prend la décision finale et c'est le conseil CPDPN qui nous a fait attendre encore 48 heures pour nous dire « Ok, on fait l'IMG ».
Ok.
Et puis on arrive à l'IMG, on avait la chance d'avoir ce médecin qui était là, et c'était lui qui faisait le geste. Donc le geste, c'est l'interruption médicale. Et donc, il commence par ça. On avait aussi une super sage-femme qu'on avait rencontrée 48 heures plus tôt, avec qui on était très en confiance. Et donc, ils font d'abord l'anesthésie, ils font d'abord le geste. Donc, ils font la péridurale en premier pour que je ne ressente absolument aucune douleur physique. Et après, il vient par la paroi utérine faire une première injection dans le cordon ombilical, donc avec une injection qui va, dans un premier temps, un antidouleur, en fait, qui va lui éviter toute souffrance. Après, un anesthésiant qui va l'endormir, et puis le traitement qui va stopper son cœur. Ce moment, il a été absolument atroce, mais à la fois extrêmement doux. On avait créé un espace tout cocooning, j'avais amené mon bol tibétain, des pierres, on avait essayé de créer une petite bulle de sérénité, on mettait de la musique de relaxation, et puis on était tous les deux main dans la main, tête contre tête, connectés à Hugo. Une fois passé l'étape de choc, de rejet, où la première réaction quand on a su, ça a été le rejet, où moi je voulais plus me voir enceinte et je voulais que personne ne me voie et garde cette image de moi. Julien, lui, s'est retiré aussi tout de suite de cette grossesse. Pour autant, moi, je le sentais et c'était très difficile. Et après, grâce à une thérapeute, j'ai réussi à réinvestir le temps qu'il y avait avec lui jusqu'à l'accompagner. Et en fait, c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a eu le jour d'IMG, c'est de l'accompagner. Et finalement, ça a été très dur, mais à la fois très beau. Et après, ils ont...
Je te laisse finir et puis après, on va aller tout doucement vers la fin de l'émission, oui, si ça ne te dérange pas. Et on va enregistrer un bonus que vous retrouverez sur le site de la radio, parce que je sens que tu as encore des choses à raconter et que ce serait dommage de s'arrêter là. Donc je te laisse finir.
Merci. Après, il déclenche l'accouchement et donc, comme tout accouchement, et comme tout déclenchement, c'est pas le... pas le corps, enfin c'est pas les médicaments qui décident quand le corps va laisser partir ce bébé. Donc ça a été le geste est terminé, c'était 12h35 et après ça a été des heures et des heures de torture. Je pense qu'on peut on peut clairement dire ça parce que c'était horrible en fait. On entendait toutes les naissances à côté, on savait que lui c'était fini, qu'il était mort et puis à la fois mon corps refusait de lâcher prise, mon col ne s'ouvrait pas, je faisais de la fièvre, enfin, je faisais des réactions au traitement. Donc dès que je reprenais un cachet pour relancer les contractions, j'avais des poussées de fièvre. Donc en fait, j'étais terrorisée de mourir aussi.
De mourir aussi avec lui.
Ouais, mon mari aussi, il avait peur de rentrer à la maison sans petit frère et sans maman. Donc ça a été de longues heures atroces. Et puis à 19h, au moment de la relève, la sage-femme vient nous dire écoutez, je vous donne un dernier traitement et puis si ça marche pas, on va reprendre demain. Et en fait, là, j'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas rester encore toute une nuit comme ça, dans cette souffrance. Et j'ai fait appel à ma thérapeute holistique, voilà, encore de la, du magnétisme.
Je trouve ça bien que vous parliez de thérapie holistique aussi là-dessus, parce que là, on parle de quelque chose qui nécessite pas juste un accompagnement psychologique, mais c'est aussi là le corps qui a besoin d'être accompagné, parce que le corps, lui, comprend les choses différemment et va montrer les choses différemment. Et ça, c'est important aussi, d'avoir eu cet accompagnement. C'est vraiment précieux que vous ayez trouvé quelqu'un.
Alors, je la connais, ouais, elle a été sur mon chemin depuis longtemps, mais en effet, elle était là et voilà, elle m'a fait un soin à distance. Et d'un coup, d'un seul, la sage-femme m'avait dit ça peut aller très vite, d'un coup, le col peut lâcher et en fait, tout va s'ouvrir et à ce moment-là, ça va être OK. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. La sage-femme, du coup, a vu dans l'état dans lequel on était et elle m'a proposé de rester malgré son temps de travail qui se terminait. J'étais très rassurée qu'elle soit là aussi. Du coup, à 19h, donc au moment de la relève, elle m'a donné le dernier médicament. J'ai refait une poussée de fièvre et pendant que la fièvre montait, je lui disais, je sens quelque chose dans le bas-ventre. Alors que j'avais vraiment aucune douleur physique depuis le début, la péridurale m'avait complètement bien anesthésiée. Et à ce moment-là, elle regarde et elle me dit, votre col, il a bougé, il est passé de 2 à 5, alors que depuis midi et demi, on était toujours au même endroit. Après, je suis passée de 2 à 5 à 10 en l'espace de 3 minutes. J'ai ouvert les jambes et en fait, il est sorti sans même que je pousse. Ça a été extrêmement rapide, finalement. Et du coup, ce moment de découverte qu'on appréhendait beaucoup, on s'était préparé en se disant, moi, je veux l'accueillir, je veux le voir. Mon mari se sentait pas capable, donc il avait dit que... Il sortirait et il verrait après. Et puis en fait, au moment où... Non, les sages-femmes devaient l'emmener tout de suite, le préparer et nous le ramener après. Et en fait, quand j'ai senti qu'il arrivait, j'ai dit, je ne peux pas le laisser partir. Donc j'ai dit à mon mari, si tu n'es pas prêt pour le voir, je te laisse sortir, mais moi, je ne peux pas le laisser partir. Et en fait, on l'a accueilli finalement tous les deux et c'était un moment absolument magique. C'était notre troisième accouchement. Et finalement, il n'y avait pas de notion de vie ou de mort parce que son corps était là. Et juste, on avait notre bébé. Ah ouais. C'était un magnifique moment suspendu. Et un amour... La souffrance... En fait, on a été dans l'extrémité de toutes les émotions. Je crois que la souffrance n'a jamais été aussi intense. Et l'amour n'a jamais été aussi intense. C'est un moment très, très particulier, en fait.
Je te propose qu'on mette fin à l'émission.
Oui.
On fera un petit bonus pour que tu puisses continuer ton témoignage. En tout cas, merci beaucoup, Marilyn, pour ce beau témoignage très poignant.
Merci infiniment, Marilyn.
Merci à vous.
Merci d'avoir eu la force et le courage de venir raconter ton histoire. Je suis sûre que ça va aider plein d'autres couples qui traversent ou qui ont traversé ou qui seraient amenés à traverser ce genre d'épreuve. Nous, on se retrouve avec Lucille tous les premiers lundis de chaque mois, de 10h à 10h30, sur Macalade. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse mail de l'émission, lapausematernelle@outlook.fr. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. La pause maternelle.